RFI, grand reportage.
Les sondages en témoignent, les Italiens restent favorables à l'accueil des migrants et les organisations catholiques jouent un rôle crucial. Exemple, avec ce centre de demandeurs d'asile, Un Monde Meilleur, c'est son nom, où la coopérative Auxilium se bat pour leur insertion dans la société italienne. Un Monde Meilleur, où le modèle catholique de l'intégration des migrants, c'est un grand reportage de Juliette Gerbrand.
La Papa Mobile fait le tour de la place Saint-Pierre. Nous sommes le 15 mai dernier. François salue les fidèles. À ses côtés, 8 enfants, les yeux écarquillés, le sourire aux lèvres, limite. Ils sont venus du Nigeria, de RDC ou de Syrie avec leur famille. Alors que l'ex-ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, ferme les centres d'accueil et clame qu'il verrouille les frontières, certains sont arrivés de Libye par un couloir humanitaire, les autres en bateau. Ils sont hébergés près de Rome dans un centre d'accueil au nom évocateur, Un Monde Meilleur. Ancien centre de spiritualité jésuite, l'endroit est presque majestueux. Un hall d'entrée immense, plusieurs bâtiments reliés par de spacieux couloirs et un parc de 3 hectares. Il héberge aujourd'hui environ 300 migrants pris en charge par l'État et 25 directement pris en charge par l'Église catholique. Au bout d'une allée, un petit enclos abrite quelques chèvres, des poules. Plus loin, un grand terrain de foot. C'est la passion du jeune Ansu.
Bonjour, je m'appelle Ansu Cissé. J'ai 20 ans, je viens du Sénégal. C'est le 31 janvier 2019 que je suis arrivé ici, après la fermeture de l'autre centre qui a été fermé à cause des débats politiques.
Comment ça, à cause des débats politiques?
Eh bien, c'était parce que moi, je fouille toujours les journaux et puis voilà, j'ai lu l'information. Je suis descendu en bas pour rencontrer le coordinateur qui s'appelait Umberto Dinoy. Je l'ai fait voir le journal, mais il a été surpris. C'était une chose incroyable, il n'en croyait pas. Il a essayé de contacter les autres. Aucun d'eux n'était au courant. Du 22 janvier au 31 janvier, il va falloir que le centre soit vide.
Les débats politiques qu'évoque Ansu, c'est la polémique qui a suivi la décision de Matteo Salvini de fermer la seule structure de premier accueil de la capitale. Ansu a été relogé ici. Arrivé il y a 2 ans, il peine à obtenir le statut de réfugié, car le Sénégal fait partie des pays sûrs selon les critères de l'asile.
Moi, mon cas, c'est un peu difficile. En tant que Sénégalais, ils jugent nécessaire que c'est compliqué. Ils ont oublié une chose. On peut quitter au Sénégal, mais quand même, on a une affaire très sérieuse qui nous a fait quitter le pays. La personne qui demande l'asile politique, il ne faut pas s'en rendre compte du pays de provenance, mais le problème qui l'a fait quitter son pays pour qu'il puisse avoir l'asile dans le plus rapidement possible et être libre dans le sens, pas le travail, mais quand même dans le sens de se sentir comme un élément considéré du pays, je dirais plutôt.
Discret sur les raisons de son départ, Ansu vient en fait de Casamance, une région où s'est vue une rébellion. Son père a perdu un jour un emploi de professeur, puis il a été tué sous les yeux de son fils. Ansu finit par se retrouver sur la route au Niger.
Là-bas, il y a des coxeurs qui travaillent avec les Libyens. Les coxeurs que j'ai rencontrés là-bas, il y avait des Maliens, des Sénégalais, des Gambiens. Et le mien était un Sénégalais. Bon, ce sont des personnes qui ont tiré en Libye avant la guerre, ils étaient là-bas. Ils ont bien compris la langue, ils ont travaillé là-bas, ils ont duré. Ce qui veut dire que voilà, ils n'ont aucun problème.
Ansu raconte le système des passeurs, la longue chaîne le long de la route du Niger aux villes côtières de Libye, où il a passé 5 à 6 mois. Fait assez rare, il a évité les prisons libyennes et les tortures, mais il garde d'autres cicatrices de son voyage.
Moi, j'ai eu la chance par rapport à beaucoup de personnes. Avec mon âge de mineur, il m'appelait Bambino, ce qui veut dire le gamin. Je n'avais pas subi beaucoup d'attaques. Je l'ai évité physiquement, mais quand même mentalement, je ne l'avais pas évité. Quand surtout on traumatise des compagnons de voyage devant toi, ce sont des choses difficiles à voir en tout cas surtout. Ouais, ça reste là. Je pense que je vais le raconter même à mes enfants. Ce sont des choses qui seront en moi durant toute ma vie.
Pour chasser les souvenirs douloureux, Ansu joue au foot, une passion qui le motive plus que ses cours au lycée, et il attend, avec l'appui des intervenants du centre, des nouvelles de sa demande d'asile. L'aide juridique fait partie des services assurés par l'équipe d'Un Monde Meilleur, qui se veut un lieu d'excellence en matière d'accueil. Mais ces services sont de plus en plus difficiles à assurer, car l'ancien gouvernement a non seulement fermé des centres, mais aussi réduit les moyens d'intégration. Daniele Migiani s'occupe de l'économa du centre.
Nous, on considère qu'il y a des principes fondamentaux à respecter quand on parle d'accueil et qui doivent s'appliquer à toutes les personnes qui arrivent à Un Monde Meilleur. La dignité humaine est la base de tout, bien sûr. Donc il faut garantir un soutien psychologique, l'enseignement de l'italien, une assistance médicale, sociale, et les familles doivent être suivies pour assurer l'insertion des enfants à l'école. Or, comme je le disais, les décrets sécurité-immigration ont mis beaucoup de services en difficulté dans les centres d'accueil. L'enseignement de la langue, qui est essentiel pour l'intégration, a été supprimé. L'aide psychosociale a été supprimée, alors que c'est là aussi un service fondamental, étant donné que ces personnes ont subi des traumatismes, des violences, et l'absence de soutien psychologique rend l'intégration encore plus difficile.
On va visiter un peu ?
Bien sûr, allons-y.
Bonjour, salve.
Salve, io sono la dottoressa, mi chiamo Francesca Schiaretti.
Je m'appelle Francesca Schiaretti, je suis la médecin. Je suis là depuis un an. Voilà, Veronica, l'infirmière. Toutes les deux, on est là 6 heures par jour. On accueille chaque résident à son arrivée, on fait un bilan médical et puis on établit son dossier clinique, chacun le sien. Il y a des gens qui présentent plus de fragilité, on les voit du coup plus souvent, on les connaît bien, mais surtout s'ils suivent des traitements pour des pathologies chroniques, parce que là, on s'occupe du suivi, mais aussi des renouvellements de médicaments, on s'occupe d'organiser les visites de contrôle dans les structures spécialisées. Ici, il y a notre pharmacie.
On parlait tout à l'heure des conséquences de la loi sécurité-immigration sur les services apportés aux réfugiés. Est-ce que cette loi a aussi un impact sur votre travail à vous ?
Ah oui, c'est sûr. Avant, médecin et infirmière étaient présents 24 heures sur 24. Et aujourd'hui, le médecin n'est prévu que 24 heures par semaine et l'infirmier 6 heures par jour. Et c'est une réduction horaire sévère. Ça complique évidemment le suivi des traitements et surtout, il manque de postes. Par exemple, la psychologue, sur laquelle on s'appuyait beaucoup, eh bien, parce qu'elle intervenait dans toutes les situations difficiles, surtout pour les patients qui ont des fragilités psychiatriques. Et ça, il y en a.
Ospiti che hanno fragilità psichiatrica, che comunque ci sono.
Sur un panneau en bois, un article d'une revue médicale est affiché. Roberto Rotondo est porte-parole de la coopérative Auxilium qui gère le centre d'accueil Un Monde Meilleur.
Auxilium, diciamo, proprio sul fronte medico.
En Italie, il y a des préjugés, il y a de fausses histoires qui circulent selon lesquelles les migrants apporteraient des maladies. Auxilium prend en charge un très grand nombre de personnes. Alors nous avons lancé, avec les plus grandes institutions médicales du pays, un programme de recherche sur l'état de santé des migrants qui arrivent en Europe. On a publié 5 ou 6 articles dans des revues scientifiques et on constate que non seulement les migrants n'apportent pas de maladies, mais qu'au contraire, ils en attrapent ici, parce qu'ils arrivent après de longs parcours éprouvants, dans un état de stress très élevé. Ils sont beaucoup plus vulnérables et plus susceptibles de tomber malades. Donc, il n'y a aucune inquiétude à avoir, enfin, pour les Européens. Et comme vous le voyez, malgré toutes les coupes de budget, les lois, les décrets, nous, à Auxilium, on fait le maximum pour maintenir les services existants, comme cette infirmerie, parce qu'ils sont à la base de l'accueil.
Come erano prima, proprio perché per noi un servizio come questo è alla base dell'accoglienza.
Jeux de ballon, jeux électroniques, nous sommes dans la partie du centre réservée aux familles. Les enfants ne sortent pas seuls, alors ils se défoulent dans les couloirs. Plus loin, une vaste baie vitrée qui donne sur les lacs, les collines et la mer. Au mur, des photos, moments choisis de la vie dans le centre. Là, les retrouvailles d'un couple séparé en arrivant en Italie. Là, des Pakistanais qui jouent au cricket. Ici, 2 enfants sourient assis sur un lit.
Deux enfants érythréens, Nathan et Noémie, ils sont partis il y a presque 2 ans, mais on est encore en contact avec eux, leur mère nous écrit. Ils ont été relocalisés en Suisse et ils nous envoient encore leur bulletin scolaire pour nous montrer leurs progrès.
Milena Scutari est l'éducatrice du centre. Elle s'arrête ensuite avec Daniele devant une photo qui montre juste un morceau de papier.
Cette photo, elle a beaucoup de sens. Il s'agit d'un document qui vient sans doute d'un centre libyen.
Le morceau de papier ressemble à une fiche de restaurant ou d'hôtel imprimée en italien, colazione, pranzo, petit déjeuner, repas. Elle est remplie à la main en arabe. La fiche évoque les liens entre Italiens et Libyens dans le trafic des migrants, comme les passeurs d'en dessous qui l'appelaient bambino. Sur le mur, on passe ensuite à une photo du réfectoire. D'ailleurs, c'est l'heure d'aller manger. À la cantine, menu unique pour tout le monde, demandeurs d'asile et personnel du centre. Entrée, deux plats au choix, fruits, yaourts. On y rencontre Ryan, 9 ans, qui aime beaucoup les pâtes, et sa mère, Zara Aganbari Mazidi, 44 ans. Ils sont arrivés d'Iran il y a un peu plus d'un an.
On va aller bavarder dans ma chambre.
Ryan, c'est possible de visiter chez toi ?
Si.
Ah, grazie. Ryan nous conduit dans les couloirs, fier et intimidé à la fois. Deux lits, un bureau, des étagères, sur le mur des listes de mots. Les devoirs de Ryan, sans doute.
Non. Non è mio.
Sur le mur, c'est à moi. Comme ça, quand je me déplace, je vois les mots. Ça m'aide à mémoriser le vocabulaire italien.
À côté, un poème écrit d'une main enfantine.
Ça, c'est un cadeau que Ryan m'a donné pour la fête des mères.
Mamma Zara. Eraviglioso.
À l'école, tu t'es fait des amis ?
Si. David.
Mais même dans le meilleur des environnements, le temps passe lentement quand on attend un emploi, un logement, l'aboutissement de l'intégration. Sarah montre une caisse pleine d'objets colorés.
Je fais ça avec des bouteilles et du coton, de la laine. Je fais ces objets parce que quand je n'ai rien à faire, je suis comme une folle.
J'y passe 2 ou 3 heures
par jour et je me sens plus tranquille. Pour moi, le temps passe plus vite comme ça.
Zara suit aussi des cours d'italien ici, au centre, dans la ville voisine de Frascati, et elle a également été inscrite dans une école à Rome l'an dernier.
Je voudrais m'inscrire à nouveau à Rome parce que je sais que je ne parle pas bien italien. J'aimerais être assistante dentaire, mais je ne sais pas si j'en aurai l'autorisation. Il faudra peut-être que je retourne au lycée ici, je ne sais pas. Mais ça me plairait parce que j'ai déjà travaillé dans des cabinets médicaux dans le passé.
Un passé qu'elle essaye de tenir à distance. Sarah évoque plus volontiers son voyage et ses problèmes avec la Convention de Dublin que les causes de son exil, qu'elle résume à ces quelques mots.
Des problèmes de religion et des problèmes familiaux.
Vous ne voulez pas en parler, non, c'est difficile.
Quand je pense au passé, je suis triste. Je ne veux pas parler du passé.
Et vous êtes partie comment, ils diront ?
J'ai fait le voyage en avion, j'ai une amie qui vit en Finlande et donc je voulais aller là-bas. Mais après 5 mois en Finlande, on m'a envoyé en Italie parce que j'avais donné mes empreintes à l'ambassade d'Italie à Téhéran. Les autres ambassades, ça prenait beaucoup de temps, ils ne me donnaient pas d'autorisation. Il n'y a que l'Italie qui m'a accepté.
Chrétienne, Zara va régulièrement à l'église du centre, un centre qui abrite aussi un autre lieu de prière. On arrive où là ?
Ici, c'est la mosquée du centre du monde meilleur. Un imam est présent pour presque toutes les prières. On y célèbre la fin du Ramadan, comme on fête Noël. Et ce qu'il y a de beau ici, c'est que parfois, indépendamment de la religion, les gens célèbrent leurs festivités ensemble, tant les chrétiens que les musulmans.
Akram Zoubaïdi est médiateur culturel, un poste crucial si l'on pense qu'au centre, il sait parler jusqu'à 80 langues ou dialectes à la fois. On quitte Akram et la salle entièrement recouverte de tapis de prière pour arriver devant l'une des salles de classe cette fois-ci. Des chaises disposées en cercle, un planisphère au mur et sur un tableau noir une liste de numéros de téléphone. Roberto Rotondo explique.
Non seulement on enseigne la langue, mais comme vous le voyez, dans ce dernier cours, on a donné aux élèves tous les numéros de téléphone d'urgence, police, SAMU, SOS violence. Bref, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un jeu d'enseigner l'italien. C'est surtout une façon d'apprendre à ces personnes qui viennent d'arriver comment se comporter et comment s'orienter sur le territoire.
Ce vendredi, il n'y a pas cours, mais la jeune femme qui nous rejoint les suit régulièrement. Fatima Ahmad a 23 ans et les yeux doux. Elle porte une longue robe rouge et dissimule sous un foulard bleu nuit une cicatrice au visage. Souvenir douloureux de 2 ans en Libye, dont 5 mois en prison. Et c'est un couloir humanitaire qui a mis fin à son calvaire.
L'organisation HCR s'est présentée à la prison où j'étais. Tout le monde pouvait participer. Il y a eu des entretiens pour évaluer qui participerait à ce couloir humanitaire, qui en avait le plus besoin. Dieu merci, j'ai été choisie et j'ai pu arriver ici.
Fatima a fui la Somalie, un pays où 20% de la population est déplacée interne à cause des conflits. Elle a traversé le Yémen, le Soudan, pour arriver en Libye où elle a trouvé l'enfer.
La cicatrice, c'est 4 hommes qui m'ont agressée. Puis ils m'ont tailladé le visage, de haut en bas. En fait, les gens qui m'avaient acheté voulaient de l'argent. Et comme je n'en avais pas, ils m'ont revendu aux autres. En Libye, il n'y a pas de règles. C'est la loi de la jungle. Les gens sont vendus et achetés comme des esclaves. On subit des violences physiques, sexuelles. La vie que j'ai vécue en Libye, je voudrais l'oublier le plus vite possible.
La jeune femme a laissé 5 enfants en Somalie. Elle les a confiés à sa sœur, qui vit dans une région où sévissent les milices d'Al-Shabaab. Mais grâce à son statut de réfugiée, elle a des projets. Et quand elle les évoque, son visage s'illumine.
Avant tout, dans ma nouvelle vie, je voudrais étudier. Étudier les langues, l'anglais, l'italien, le français. Et trouver un emploi et un logement. Travailler, avoir une maison et réunir la famille. Voilà mon rêve.
Le premier couloir humanitaire organisé par le gouvernement italien avec le Haut Commissariat aux réfugiés et la Conférence épiscopale a été mis en place en décembre 2017. Depuis, ces couloirs ont continué. Le Centre Un Monde Meilleur a participé à 4 d'entre eux, le dernier au printemps. Pour Daniele Migiano, ils sont la solution à de nombreux problèmes politiques, mais avant tout, ils permettent de sauver des vies.
Si évitano queste persone che vadano a finire.
On évite que les gens finissent entre de mauvaises mains. On organise un vol directement depuis le pays concerné pour que les gens arrivent en sécurité dans un pays européen. Des entretiens évaluent au départ qui est susceptible d'avoir droit au statut de réfugié et nous, on les aide à poursuivre leur démarche ici. C'est la meilleure manière de sortir les gens des camps libyens. Au printemps, on a accueilli un couloir humanitaire. Les gens n'avaient pas vu la lumière depuis plusieurs mois car ils étaient retenus dans une espèce de bunker sous terre où une femme a accouché seule. Elle a coupé le cordon du bébé toute seule. Quand ils sont arrivés ici, le bébé ne pesait pas grand-chose. Il a été soigné à l'hôpital et maintenant la petite vit avec sa mère.
Qui a Roma in un ospedale e questa bambina adesso vive con la sua mamma.
Au détour d'un couloir, Roberto Rotondo nous montre une phrase encadrée sur une plaque de marbre.
Questa è una frase di Pio XII che lui disse in Piazza San Pietro.
Ça, c'est une phrase que Pie XII a dite place Saint-Pierre en 1952, je crois. On était juste après la Seconde Guerre mondiale. Et la phrase dit « C'est tout un monde qu'il faut refaire depuis les fondations. De sauvage, il faut le rendre humain. D'humain, le rendre divin, c'est-à-dire selon le cœur de Dieu. » Et donc, pour nous, ça veut dire quoi, transformer le monde? Ça veut dire quoi, de sauvage le rendre humain? Eh bien, cela signifie construire un monde meilleur. Et c'est en quelque sorte ce qu'on veut faire ici.
Un monde meilleur est iniziato, ecco, questa frase lo spiega bene.
Depuis notre visite au centre, le gouvernement italien a changé, mais les décrets Salvini sur l'immigration sont toujours en vigueur. La semaine dernière, 12 femmes et une fillette sont mortes dans un naufrage près des côtes de l'Europe, à Lampedusa. 4 enfants sont parmi les nombreux disparus.
Un monde meilleur où le modèle catholique de l'intégration des migrants, un grand reportage de Juliette Gerbrand, réalisation Eva Piedel, un magazine à retrouver sur le site de RFI.